La conférence de ce soir est intitulée « Cité catholique, cité utopique ». C'est le reproche que l'on fait souvent. On se dit une cité catholique, c'est-à-dire une société chrétienne, avec des institutions chrétiennes. Eh bien, c'est une utopie. Utopie, c'est un mot grec qui signifie le lieu qui n'existe pas, utopos. L'utopie, c'est donc une chimère. Et on entend dire souvent, eh bien, vouloir une cité catholique, c'est vouloir une cité chimérique. C'est une illusion. Ça n'est pas possible. Ou en tout cas, ça n'est plus possible. On nous dira, rêver vraiment d'une société où les institutions, c'est-à-dire les lois qui régissent par exemple la famille, les lois qui favorisent la vie, eh bien, ça n'est pas possible. On n'envisage pas nécessairement une cité anticatholique, on vous dira dans ce cas-là, au moins une cité laïque, complètement neutre, qui ne prend pas parti, ni pour le bien, ni pour le mal, où chacun fait ce qu'il veut, où au fond, la vertu ne peut pas être imposé par la loi, ça ne peut pas être imposé par les institutions. Non, ce serait une cité où chacun fait ce qu'il peut de son côté. Au fond, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ou plus exactement, un individualisme, on espère vertueux, mais au niveau collectif, au niveau social, au niveau politique, alors là, il ne faut pas mêler les questions religieuses. Ça n'est pas possible. Seulement, nous sommes un petit peu embarrassés parce que le saint patron de la fraternité, saint Pie X, dit « La cité catholique, elle n'est pas à inventer parce qu'elle a déjà existé et qu'il faut la rebâtir, la restaurer. » Lorsque le pape saint Pie X a pris comme devise « Tout restaurer » dans le Christ, omnia instaurare in Christo, il avait bien sûr pensé aux familles, aux sacerdoces, mais il avait pensé aussi à la cité, restaurer la cité catholique. Et vous le savez bien, vous, Valaisans, puisque hier soir nous soupions avec quelques amis ici, et on me rappelait que le premier congrès de ce qu'on a appelé la cité catholique, ce mouvement qui s'appelait la cité catholique, qui venait de France, c'est vrai, fondé par Jean Housset, qui a été ensuite transformé en office, eh bien, le premier congrès s'est tenu dans cette ville, à Sion, en 1962. Et cette réunion était bénie par Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre avait soutenu, alors que les évêques français se faisaient tirer l'oreille, ils n'avaient pas véritablement envie de soutenir ce mouvement de la cité catholique. Mgr Lefebvre, lui, depuis Dakar, soutenait la cité catholique. Donc, on voit bien, saint Pie X, lui, pense, dès le début de son pontificat, donc dès le début de ce siècle, en prenant cette devise tirée de saint Paul, tout restaurer dans le Christ, qu'il faut aussi restaurer la cité. Il nous disait, je vous le rappelais à l'instant, cette cité, encore une fois, elle n'est pas à inventer. Ce n'est pas un projet qu'il faudrait bâtir de façon artificielle. Non, ça a existé. Il y a eu, dans notre Europe chrétienne, il y a eu des institutions vraiment marquées du sceau du Christ. Le mariage était avant tout un sacrement, ça n'était pas un contrat, simplement, un contrat entre des partenaires. Non, le mariage indissoluble, le mariage pour fonder une famille, un foyer chrétien, ça a été reconnu par l'État. Il y a eu des âges de foi dans l'Europe chrétienne, où l'école n'était pas neutre. L'école pensait qu'elle avait à transmettre les vérités de foi, transmettre les vérités conformes à l'enseignement de l'Église. Et ça, vous le savez bien vous-même, parce que ce passé n'est peut-être pas aussi loin pour vous que pour nous en France. En France, depuis la Révolution de 1789, on a laïcisé à outrance. On a eu ces lois du début du siècle qui ont séparé l'Église de l'État. En Valais, c'est plus récent. Ça s'est fait, mais ça s'est fait il n'y a pas si longtemps. Et il subsiste encore des vestiges de ces institutions chrétiennes. Donc, peut-être que pour vous, ça sera plus facile à rebâtir, à condition de ne pas perdre la mémoire de votre histoire, de ne pas se laisser submerger par ce qui se fait ou ce qu'on nous dit qu'il faut faire. Pour vous comme pour nous, mais peut-être plus facilement pour vous que pour nous Français, il faut se dire, donc nous n'avons pas inventé la cité, il faut peut-être retrouver ce qui s'est fait, retrouver la tradition, et selon la belle expression que Mgr Lefebvre a fait questionner, faire, refaire l'expérience de la tradition, retrouver cela. Et ça n'est pas si utopique que ça y paraît pour les gens qui sont un peu intoxiqués par les médias. Ça leur semble tout à fait utopique, chimérique, illusoire. On vous dit que c'est fini la société chrétienne. On est arrivé à un point de non-retour, on ne pourra plus revenir à cela. Ce n'est pas la peine de rêver. Mais quand on constate où on en est avec une société, justement, qui ne s'efforce plus de transmettre les valeurs chrétiennes, je ne sais pas où ça en est en Valais, mais je peux vous dire, en France, lorsque l'insécurité est un problème quotidien, l'insécurité dans la rue, dans le métro, lorsqu'on voit bien que les gens se font agresser, pas plus tard qu'il y a fin décembre, un professeur de l'Institut, de sa damnage, qui se trouve dans le métro, eh bien, se fait agresser. Et ce n'est pas quelqu'un de jeune, mais par des loubards, par des... Bon, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Quand on sait qu'en France, par exemple, à Paris, un ménage sur trois casse, le divorce devient une institution. C'est plus le mariage qui est une institution, c'est le divorce. Avec les difficultés que ça pose pour les enfants. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, comme ça, tout s'effriter, tout se déliter, on se pose quand même des questions. Et on pourrait se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir à ce qui se faisait? Est-ce que, au fond, c'était mal avant, ce qu'on faisait? Ça n'allait pas, c'était pas bien? Au fond, Saint Pédis nous dit, on ne vous demande pas de faire un effort d'imagination, d'imaginer une société utopique qui n'a jamais existé. On ne vous demande pas de faire de la science-fiction ou de la politique-fiction. Ce n'est pas un effort d'imagination, ça serait plutôt un effort de mémoire. Souvenez-vous de la façon dont on vivait dans un pays chrétien, il n'y a pas si longtemps. On nous gargarise depuis un certain temps, on se gargarise, peut-être pas nous, mais de l'expression « le devoir de mémoire », vous savez, c'est une expression à la mode. Hein. Mais là, il y a peut-être un devoir de mémoire pour les chrétiens. Mais personnellement, j'aimerais plutôt renverser l'expression. Je crois qu'on devrait plutôt avoir la mémoire de nos devoirs chrétiens. Se souvenir de ce que a été une société chrétienne. Pour comprendre cela, j'aimerais peut-être partir d'un texte, toujours emprunté à l'auteur que je citais hier, ce dominicain que vous connaissez par les jeunes filles que vous envoyez à Crécia. C'est le père Calmel, ce dominicain qui a beaucoup contribué à la restauration de cette congrégation enseignante. Eh bien, le père Calmel disait ceci, c'est un chapitre sur la chrétienté, et il dit évidemment, il ne s'agit pas de considérer que la cité catholique a vécu, qu'elle est morte, elle est enterrée. Lui dit, à la suite de Péguy d'ailleurs, il faut que chrétienté continue. Il explique les difficultés qui se posent. Pourquoi est-ce que ça nous semble utopique? à ceux qui approuvent pour le seul motif que c'est l'État qui les emploie, les mille et une méthodes en vertu desquelles l'administration se met à la place du père de famille, monopole d'État, n'est-ce pas, qui s'installe et qui empêche l'initiative personnelle. Une espèce de collectivisme, ça existe, ça. À ceux qui s'inclinent respectueusement devant toute célébrité littéraire du seul fait qu'elle est célébrité. Alors qu'ils sont fascinés par ce que l'on a vu justement sur le petit écran. À ceux qui désirent la monopolisation et la fonctionnarisation de la médecine, sous prétexte que les contagions seraient mieux évitées et que tous seraient très bien soignés sans distinction de pauvres et de riches. On ne veut plus voir la médecine comme l'exercice d'un métier libéral. Il faudrait que tout soit fonctionnarisé, collectivisé. À ceux qui trouvent bon que les gens d'affaires, les vendeurs de livres ou de remèdes, alors les vendeurs de livres, de journaux, les publications, les vendeurs de remèdes, les pharmaciens, les tenanciers de salles, de spectacles et de bars, eh bien qu'ils n'hésitent pas à faire marcher de ce qui accourt, sous prétexte que cela rapporte de l'argent, et que sinon il risquerait de végéter. Mais à tout cela, dit le père Calmel, ça ne sert à rien de parler de la cité catholique et de la chrétienté. À tous ceux qui s'accommodent aisément de la situation et de la civilisation présente et qui acceptent de faire avec elle, tôt ou tard, ostensiblement ou en dessous, n'importe quel compromis, à tout cela, comment arriver à faire entendre ce que représente une chrétienté? Ces gens-là qui ont perdu l'esprit missionnaire parce qu'ils sont gangrénés par un esprit plutôt de démission que de mission, d'apostolat, et rayonnement chrétien, à cela, ça ne sert plus à rien. Cela, ils ne viennent plus. Ils ont des oreilles, ils n'entendent plus. Ils ont des yeux et ils ne voient plus. Ils ont fait avec, ils ont pactisé. Pour eux, ça va très bien comme ça. Alors pour eux, c'est certain, la chrétienté, c'est une utopie. Il vaudrait mieux d'ailleurs que ça reste comme ça. Pour eux, une utopie, un truc irréalisable, ça veut dire donc que l'on n'a plus à s'efforcer. On n'a plus véritablement à prendre les moyens pour faire un effort. Chrétienté continue, non, ça n'est plus leur préoccupation. Tout va bien comme ça. Mais le père Calmel va encore plus loin, plus fort, parce qu'il faut réveiller. En vérité, on ne saurait leur parler utilement qu'à partir d'une mise en question préalable des institutions actuelles, de l'esprit qui les anime, de la tournure qu'elles ont prise. Ces gens qui sont là comme un peu anesthésiés, chloroformés, engourdis spirituellement, intellectuellement, pour eux tout va bien, pas besoin, on vit bien, on veut bien. On ne saurait parler utilement de chrétienté qu'à ceux qui veulent bien admettre que les institutions actuelles, qui ne sont plus régies par les principes chrétiens, eh bien les institutions actuelles, au moins un certain nombre, représentent une antichambre de l'enfer. Plus ou moins bien climatisé. C'est l'antichambre qui est climatisée. Hein. L'enfer, ça ne l'est pas. Parce qu'elles sont des institutions opposées au droit naturel. Évidemment, je voulais une loi qui légalise le crime, l'avortement. C'est, en toute rigueur, l'antichambre de l'enfer. On ne peut pas dire qu'avec ça, on aille au ciel. Lorsque quelque chose qui est profondément immoral devient légal, on est là dans une société qui n'est plus chrétienne du tout. Elles légitiment ces institutions, elles autorisent, elles couvrent de leur autorité des actes et des attitudes qui sont une offense au Créateur et au Rédempteur de l'humaine nature. Alors qu'une cité qui mérite le nom de chrétienne, une chrétienté doit être conforme au droit naturel, digne de Dieu et digne de l'homme, inspirée par l'enseignement de l'Église et permettre à l'homme de gagner le paradis. Voilà de fait ce que c'est que la cité catholique. C'est une cité qui doit permettre de vivre de façon vertueuse, c'est-à-dire que les lois ne nous poussent pas au crime. Au contraire, les lois sont là pour empêcher. On ne laisse pas publier n'importe quoi. Sur les kiosques des journaux, on ne voit pas n'importe quoi. À la télévision, on ne voit pas n'importe quoi. À la radio, on n'entend pas n'importe quoi. Et le père Calmel, qui aimait beaucoup Peggy, cite ces quatre vers. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu, car elles sont l'image et le commencement, et le corps est l'essai de la maison de Dieu. Donc, la première réflexion qui doit être la nôtre, c'est celle-là. Est-ce que je suis capable de remettre en question vraiment cette situation? Ou est-ce que je pactise, ou je transige, et je considère qu'au fond, c'est pas si mal. Il n'y a pas vraiment d'effort à faire. Nous devrions être inspirés par un sentiment de sainte colère. Se dire, ça n'est pas possible. Une école où on favorise la débauche, où on laisse diffuser la drogue, une école où on promeut, sous prétexte d'éducation sexuelle, la débauche, c'est plus chrétien. Une famille où l'autorité des parents n'est plus préservée. Une société, encore une fois, où on considère, par exemple, que l'avortement, eh bien, c'est permis. Ça doit nous révulser. Si nous n'avons plus cette capacité, n'est-ce pas, de nous insurger, eh bien, nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens tièdes, et plus que tièdes, froids, morts. C'est la première chose donc qu'il faut demander pour comprendre un petit peu cette affection que nous avons à faire ce soir, c'est cela. Mon Dieu, donnez-moi, rendez-moi cette capacité d'indignation. Quelqu'un qui n'est pas indigné là n'est pas digne d'être chrétien. Quelqu'un que le péché n'indigne pas n'est pas digne d'être appelé chrétien. Vous trouverez, alors, toujours chez le père Calmel, cette réflexion que nous devons réclamer de toutes nos forces, non seulement par nos prières, mais aussi par notre action. Et ce sera le deuxième point. Il faut impérativement que nous ayons des institutions chrétiennes. Voici ce que disait à la page 168, toujours de cet ouvrage qui s'intitule « École chrétienne renouvelée ». Il n'en reste pas moins que deux vérités élémentaires s'imposent à notre esprit. De soi, des institutions justes favorisent la vertu. Le mal est plus redoutable lorsque le scandale provient des institutions elles-mêmes. On voit par là comment répondre à ceux qui trouvent assez vain de promouvoir des institutions fidèles aux droits naturels et à l'esprit de Jésus-Christ, de travailler ainsi à l'édification d'une chrétienté. Ils voudraient qu'on s'en tienne au témoignage individuel, cet individualisme. Comme l'on dit aujourd'hui, il faudrait se contenter d'être une présence individuelle, pas institutionnelle. En réalité, une telle présence au milieu de structures iniques et à la condition d'être pure de toute complicité est absolument indispensable. Mais elle ne s'oppose en rien à l'effort nécessaire pour susciter des institutions chrétiennes, seraient-elles de petite envergure. Et les petites institutions chrétiennes qui sont à notre portée, elles sont de petite envergure, mais là-dessus, nous avons des responsabilités que nous ne pouvons pas récuser, dont nous ne pouvons pas nous dégager. Ça s'appelle l'école, ça s'appelle la famille, ça s'appelle le métier. Et là, tout le monde est responsable. Parce que tout le monde a une famille, des enfants à mettre à l'école et une profession à exercer. Et là, ça a une dimension petite institution, mais c'est déjà un début. Et c'est ce sur quoi j'insisterai pour le troisième point. Ce que nous comprenons ici, et là je voudrais renverser le reproche que l'on formule un petit peu facilement, disons, cité catholique, cité utopique, l'utopie n'est pas là où on croit. Où est l'utopie? L'utopie, c'est de croire que l'homme est un individu, comme disait Jean-Jacques Rousseau, un tout souverain, parfait. C'est pas ça. Aristote, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait « Qu'est-ce que c'est que l'homme ? C'est un animal politique, social. Il vit en société, il ne peut pas vivre tout seul. Les enfants ne peuvent pas vivre tout seuls. Et nous-mêmes, ensuite, nous avons besoin de vivre en société, en communauté. Donc, il faut que les lois qui régissent cette société, les règles qui président au bon fonctionnement de ces sociétés, soient des règles conformes à nos convictions fortes, nos convictions religieuses. L'utopie, c'est de croire, encore une fois, qu'on puisse dissocier nos convictions de notre comportement social, notre comportement en société. Ça voudrait dire, prenons un exemple, la première société dont nous avons véritablement une connaissance tout à fait expérimentale, c'est la famille. Est-ce qu'en famille, alors on doit se dire, eh bien, on se retrouve à table, mais pour ce qui est de l'échange des convictions fondamentales, ça, chacun pour soi. Chacun pris dans son coin, dans son petit coin. On va à la messe, chacun dans son coin. On ne partage pas les valeurs essentielles. Mais c'est impossible. Ça ne peut pas être comme cela. La prière en commun, la prière en famille est tout à fait nécessaire. Parce que de même qu'on partage le repas, c'est normal, on se retrouve après le travail, après l'école. Mais on doit aussi et surtout se retrouver sur l'essentiel. Savoir offrir sa journée au bon Dieu, savoir le remercier des grâces qu'on a reçu. La famille est une créature du bon Dieu. Ce qu'il y a d'utopique, vous comprenez bien, c'est cette espèce de division que l'on essaye d'établir entre la vie en société et la vie individuelle. Alors on pourrait être chrétien individuellement et quoi, païen collectivement? Mais ça, c'est pas possible. Il y a une unité. On fabrique à ce moment-là des schizophrènes, des gens qui sont malades psychologiquement. Alors, je suis chrétien individuellement, mais dès que je rentre dans un corps social, j'oublie que je suis chrétien. Je suis chrétien tout seul, et dès que j'entre au bureau, je vais à l'atelier, je suis plus chrétien. Ah ben ça, c'est quand même bizarre. Je suis chrétien à temps partiel. Je suis chrétien à mi-temps. Je suis chrétien le dimanche, à 10 heures. Et puis après, c'est fini. C'est illogique. Je suis chrétien aussi dans mon métier. Je suis chrétien aussi dans les choix que je fais lorsque je décide que mon enfant ira dans telle école et pas dans telle autre. Je suis chrétien aussi dans ma famille. Il y a des choses que je n'admets pas, que je ne fais pas rentrer dans ma famille. Je ne peux pas faire rentrer n'importe quoi. Je ne peux pas faire rentrer le péché dans ma famille. Je ne peux pas m'abonner à des revues invraisemblables. C'est évident. Parce que c'est une cohérence, c'est une question de logique. On doit être des chrétiens cohérents. C'est tout à fait incohérent que de se dire « je suis chrétien pour moi, mais je ne le suis pas pour ceux qui me sont confiés. Je ne le suis pas pour mes enfants. » Pas possible. Je leur donne la nourriture terrestre, mais je ne leur donnerai pas ce qu'il faut sur le plan spirituel. Personne d'entre vous ne comprend ça. C'est évident que c'est incompréhensible, ça n'est pas normal. C'est là l'utopie. L'utopie, c'est de vouloir faire en sorte que la société, encore une fois, ne soit pas régie par ces convictions qui régissent notre vie individuelle, notre âme. On ne se sauve pas, c'est ce que suggère très explicitement le père Calvin, on ne se sauve pas uniquement par des efforts individuels. Il est évident qu'on est aidé, encouragé par l'exemple, comme on peut être aussi découragé par le contre-exemple, le mauvais exemple. Il faut, n'est-ce pas, que nous nous mettions bien cela en tête. Le réalisme, il est du côté de la cité catholique. La cité utopique, c'est la cité qui est issue, effectivement, des philosophes, Voltaire, Rousseau. Ça, c'est tout à fait utopique. Mais essayons d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. Il y a, je fais une petite parenthèse avant de passer à la deuxième réflexion, on donne actuellement à Paris une pièce de théâtre écrite par l'auteur d'origine russe, Vladimir Volkov. C'est une pièce sur le partage du monde. Vous savez, les accords de Yalta. Alors vous avez Roosevelt pour les États-Unis, vous avez Churchill pour l'Angleterre, et vous avez Staline pour l'Union soviétique. Et alors Volkov fait parler ces trois personnages. L'essentiel de sa pièce consiste à mettre les citations historiques, vraiment ce que ces gens se sont dit. Là, on est dans une utopie complète. C'est fabriquer un ordre mondial, dont on reparle maintenant. Un ordre mondial où il n'est pas question du tout de Dieu. C'est un ordre mondial où il est question de liberté, de droits de l'homme, où il est question d'individualisme. Et alors on voit, en particulier chez Roosevelt, l'Américain, à la fois un idéalisme complètement utopique, une idée selon laquelle il ne faudrait plus qu'il y ait de guerre grâce à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, où on arriverait comme ça à équilibrer les forces, où on démantèlerait évidemment tous les empires coloniaux, où on arriverait comme ça à fabriquer des petites sociétés, mais en même temps qu'il y a cet idéalisme, il y a un cynisme qui fait froid dans le dos. Parce que on les voit là en train de répartir comme les pièces sur l'échiquier. Ils jouent avec les nations, ils déplacent. C'est affolant. Fermons cette parenthèse. Là, on est effectivement dans une société de type tout à fait utopique. Je voudrais maintenant proposer à votre méditation un texte d'un grand évêque français, le cardinal Pie. Au XIXe siècle, qui fut évêque de Poitiers et qui a beaucoup prêché en faveur justement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, la cité catholique. Ce qui, peut, n'est-ce pas, nous faire penser que c'est une utopie, c'est un peu notre manque de formation doctrinale. Nous ne savons pas vraiment, il faut dans un premier temps, c'est ce que nous avons fait, là, essayer de prendre conscience de la gravité de leur présence, se dire, c'est vrai que nous n'avons pas à nous laisser faire, nous n'avons pas à nous laisser avoir comme cela, nous n'avons pas à nous dire, oui, nous sommes impuissants, nous n'avons rien à faire, on ne peut rien contre la fatalité, c'est comme ça. Non. Le cardinal Pie va bien nous montrer, et j'aimerais ensuite vous donner encore deux autres citations, tiré de Saint Pie X et Pie XII, et vous allez voir. Le cardinal Pie disait, lui, ceci. Qu'est-ce que nous souhaitons? Tout simplement, quand nous appelons de nos vœux et de nos prières, le rétablissement d'une cité catholique avec des institutions catholiques, des familles, des métiers, des écoles. Nous voulons tout simplement que se réalise le Notre Père, que nous récitons. Il ne faut pas que ce soit simplement des paroles. Effectivement, c'est que votre règne arrive, que vous régniez pas de façon simplement spirituelle et dans chacune de nos âmes individuellement, non, de façon institutionnelle, sur nos institutions. Et vous le savez bien, ça a été l'enseignement de Mgr Lefebvre tout au long de sa vie. Mgr Lefebvre était là vraiment l'écho du cardinal Pie. L'ennemi capital du nom, du règne et de la loi de Dieu, dit le cardinal Pie, revêt une autre forme et s'appelle d'un autre nom. Sa tendance est la même et sa devise est toujours celle de la populace déicide, nolumus unc regnare supernos. Le cri, n'est-ce pas, poussé sur le calvaire. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Déjà, c'était aussi le cri poussé au moment du jugement. Non, nous n'avons pas d'autre Dieu que César. D'autres dieux, oui, d'autres princes, d'autres empereurs, mais c'était un empereur qui se prenait pour Dieu. Nolumus unc regnare supernos, qu'on trouve dans Saint Luc, chapitre 19, verset 14. Notre devoir à nous qui reconnaissons Jésus-Christ, dit le cardinal Pie, nous qui le reconnaissons Jésus-Christ pour notre roi, à nous qui disons tous les jours à Dieu que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre devoir est d'opposer toute notre énergie aux envahissements de cette puissance du mal. Il ne s'agit pas, du moins encore à cette heure, de prendre les armes, non. La lutte est principalement une lutte de doctrine, mais il faut être armé doctrinalement. Trop souvent, n'est-ce pas, nous nous laissons faire, nous disons c'est une fatalité, on n'y peut rien, parce que nous n'avons même plus l'idée de ce que c'est qu'une chrétienté, nous n'avons même plus l'idée de ce que c'est qu'une institution chrétienne. Alors, vont pas assez, justement, cultiver ce devoir de mémoire qui est essentiellement la mémoire de nos devoirs chrétiens, ce que nos parents nous ont transmis, nos grands-parents. Nous ne voyons plus. Alors nous faisons avec. C'est la chose la plus ignoble qui soit que de se dire « je fais avec », avec la situation présente. Elle est scandaleuse, elle doit nous révulser, elle nous indigne et on ne fait rien. On attend. On attend quoi? Que ça se fasse sans nous? On se dispense d'agir, on se dispense de réagir. Ce n'est pas chrétien, ça. Voici ce que disait le cardinal Pi. Il ne s'agit pas, du moins encore à cette heure, de prendre les armes. La lutte est principalement une lutte de doctrine. Il faut se former, s'armer doctrinalement. Votre résistance consistera donc à maintenir votre intelligence ferme contre la séduction de tous les principes faux et menteurs. Et pour cela, vous formerez toujours votre conscience à l'école de votre foi, à l'école de l'Église. J'arrive à des conseils pratiques. Quand je demande aux sages de ce temps quelle est la plus grande plaie de la société actuelle, le cardinal Pi écrivait ça au XIXe siècle. Quand je demande quelle est la plaie, la plus grande plaie de la société actuelle, j'entends répondre de toutes parts que c'est, à votre avis, le dépérissement des caractères, l'amollissement des âmes. D'où vient donc ce symptôme si grave de l'affaiblissement des caractères? Ne serait-il pas vrai qu'il est la conséquence naturelle et inévitable de l'affaiblissement des doctrines, de l'affaiblissement des croyances, et pour dire le mot, de l'affaiblissement de la foi? Évidemment, c'est très difficile d'avoir du courage quand on n'a plus de conviction. Comment est-ce qu'on peut se battre quand on ne sait pas pourquoi il faut se battre? Pour qui on se bat? Le courage, après tout, n'a de raison d'être qu'autant qu'il est au service d'une conviction. Si on n'est pas convaincu, on est vaincu d'avance. Il n'y a plus de lutte possible. La volonté est une puissance aveugle lorsqu'elle n'est pas éclairée par l'intelligence. On ne marche pas d'un pied ferme quand on marche dans les ténèbres, ou seulement dans le demi-jour. Et c'est là le problème. Souvent, nous nous contentons justement de demi-vérité. Le demi-jour, c'est-à-dire la lumière, mais aussi un petit peu les ténèbres, le clair-obscur. Si la génération actuelle a toute l'incertitude et l'indécision de l'homme qui s'avance à tâtons, ne serait-ce pas, ô Seigneur, que votre parole n'est plus le flambeau qui guide nos pas, ni la lumière qui éclaire nos sentiers. Nos pères, en toutes choses, cherchaient leur direction dans l'enseignement de l'Évangile et de l'Église. Nos pères marchaient dans le plein jour. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils repoussaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils haïssaient. Et à cause de cela, ils étaient énergiques dans l'action. Nous, nous avons perdu de cette virilité. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous repoussons? Ça va ensemble. On ne peut pas vouloir et ne pas repousser. C'est évident que si on veut le bien, on repousse le mal. Si on veut la pureté, on repousse la pornographie. Si on veut la vie, on repousse toutes ces moyens qui empêchent la vie d'être propagée, les contraceptions et autres avortements. L'un ne va pas sans l'autre. Si on aime, on haït le contraire de ce que l'on aime, on hait. Et ça, nous ne le faisons plus, parce que nous sommes quoi? Une espèce, justement, de pénombre, de demi. Alors, le monde, voyez-vous, crève. Eh oui, pendant ce temps-là, le monde crève de demi-vérité, de demi-certitude, de demi-conviction. Notre Seigneur n'est pas venu pour apporter une demi-vérité. Il a dit « Je suis la vérité ». Il n'est pas venu apporter une demi-lumière. « Je suis la lumière ». Ils savaient, nos pères, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils repoussaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils haïssaient. Et à cause de cela, ils étaient énergiques dans l'action. Et si nous avons un côté un petit peu inefficace, si nous manquons d'énergie, c'est parce que nos convictions, elles, sont affaiblies. Nous, nous marchons dans la nuit. Nous n'avons plus rien de défini, rien d'arrêté dans l'esprit. Et nous ne nous rendons plus compte du but où nous tendons. Cardinal Pi, Poitiers, 19e siècle. Si le cardinal Pi venait ici à Sion, ce soir, qu'est-ce qu'il dirait? Par suite, nous sommes faibles, hésitants. Comment se pourrait-il que la chaleur de la résolution fût dans la volonté et la vigueur de l'exécution dans le bras, quand il n'y a dans l'entendement, dans l'intelligence, au lieu de la claire lumière du oui, que le nuage ou le brouillard du peut-être? peut-être. Un catholique, pour le cardinal Pi, c'est pas quelqu'un qui égrène les peut-être. C'est quelqu'un qui, si, si, non, non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pour vouloir, il ne nous manque que de voir. C'est parce que nous ne voyons pas clair que nous ne voulons pas fortement. Nous retrouverions tout le courage du cœur le jour où notre intelligence ne serait plus atteinte d'une irrémédiable lâcheté. Il y a une lâcheté intellectuelle. Il y a une démission à ne pas vouloir se former, s'imprégner de ces richesses doctrinales qui font partie de notre patrimoine. Nous revendiquons tous les héritages que nos parents nous laissent, nous transmettent. Ce sont des héritages matériels. Et l'héritage que les âges de foi nous ont transmis, est-ce que véritablement nous cultivons cela? Pas assez. Ça, c'était un évêque. Hein. Ça a quelque chose de décapant. Un discours du cardinal Pi, c'est pas quelque chose d'un petit peu mi-figue, mi-raisin, ni lard du cochon, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, c'est clair, c'est net. Troisième réflexion, et dernière, rassurez-vous, c'est un triptyque. Saint Pie X et Pie XII. Saint Pie X, justement, lorsqu'au début de son pontificat, il explique pourquoi il a pris comme devise « Omnia in sarare in Christo », tout restauré dans le Christ. Eh bien, Saint Pie X dit, une fois qu'on est formé, donc une fois qu'on a, c'était le premier point, fait cet examen de conscience, qu'on a remis en question ces institutions dont on s'est dit « elles ne sont pas supportables et je ne les supporterai pas. Elles ne sont pas tolérables et je ne les tolérerai pas. Elles ne doivent pas être admises parce qu'elles sont inadmissibles. Je ne fais pas avec. » Alors, c'est entendu, je n'ai pas tous les pouvoirs, je n'ai pas prendre le pouvoir. Mais, en tout cas, chez moi, je ne veux pas. Je ne veux pas que ma famille devienne, comment dirais-je, une espèce de famille éclatée, une espèce de poussière, là, avec des petits atomes, des éléments qui se retrouvent autour du frigo ou de la télé. Non, il y a autre chose. Je ne veux pas. Donc ça, c'était la première, ne pas se laisser faire. Contester. S'indigner. Il y a là un devoir d'indignation. Comme disait le père Calmel, bien se rendre compte où est-ce que ça mène, ces institutions-là. Deuxièmement, je veux dire, bon, je veux avoir un peu plus de force, un peu plus de courage. Mais comment est-ce que je vais trouver ça? C'est d'abord dans un effort de formation. Déjà, en reprenant un petit peu mon catéchisme, en essayant de voir un petit peu mieux dans l'histoire de mon pays, nos pays, tous nos pays ont été chrétiens. Relisez ce magnifique serment que Monseigneur Lefebvre prononçait au moment de son jubilé. Bien évidemment, en filigrane de ce que je vous dis là, vous l'avez compris, il y a cet appel à la croisade que Monseigneur Lefebvre avait lancé, 79. Qu'est-ce qu'il disait ? Souvenez-vous, souvenez-vous, en Allemagne, il y a eu un empereur chrétien, en France, il y a eu, dans tous nos pays, il y a eu. Alors, est-ce qu'il faut se dire que c'est du passé composé, il y a eu, du passé décomposé, si vous voulez? Ça peut être du futur, ça peut être du présent. Condition, évidemment, qu'on se sente un petit peu concerné, investi. Et, pour nous aider à cela, Saint Pie X qui dit, ça ne sert à rien de disserter si ça ne débouche pas sur des résolutions, si on ne passe pas à l'acte. Il importe peu, en vérité, d'agiter subtilement de multiples questions et de disserter avec éloquence sur droits et devoirs, si tout cela n'aboutit à l'action. L'action, voilà ce que réclament les temps présents. Mais une action qui se porte sans réserve à l'observation intégrale et scrupuleuse des lois divines et des prescriptions de l'Église, à la profession ouverte et hardie de la religion, à l'exercice de la charité sous toutes ses formes, sans nul retour sur soi, ni sur ses avantages terrestres, sommes terriblement égocentriques. L'individualisme mercantile, cette société de consommation, cette civilisation dite de loisirs, je dis que c'est un non-sens. Je suis désolé, les loisirs n'ont jamais civilisé. Ça n'a jamais permis de bâtir, de construire une civilisation. Ça n'existe pas. Le loisir, la détente, les vacances, ça ne civilise pas. Eh bien, dans cette société de consommation, dans cette civilisation, entre guillemets, de loisirs, les gens sont égocentriques, égoïstes, individuels, ne pensent qu'à eux, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Eh bien, le cardinal Pi nous disait « il ne faut pas faire ça », le père Calmel nous disait « il ne faut pas se laisser aller à ça », et le saint pape Pie X disait la même chose. L'exercice de la charité sous toutes ses formes, sans nul retour sur soi, ni sur ses avantages terrestres. D'éclatants exemples de ce genre, donnés par tant de soldats du Christ, auront plutôt fait d'ébranler et d'entraîner les âmes que la multiplicité des paroles et des subtilités des discussions. Non. L'on verra sans doute des multitudes d'hommes foulant aux pieds le respect humain, se dégageant de tout préjugé, de toute hésitation, adhérer au Christ et promouvoir à leur tour sa connaissance et son amour. Gage de vraie et solide félicité. Donc ça, voyez-vous, au début du siècle, ce que je voudrais vous montrer, c'est cette constance de l'enseignement des bons papes. Le pape Pie X, donc, au début de ce siècle, demande que l'on n'en reste pas à des spéculations creuses, qu'on passe à l'action. Eh bien, cet enseignement est renouvelé au milieu du siècle par le pape Pie XII. Pie XII, donc, aux alentours de 1950, dit la même chose. Qu'est-ce qu'il a énoncé dans cette... C'était une, son radiomessage, juste même pas 50, c'était 42. Et c'est d'une actualité. Les gens, n'est-ce pas, se plaignent toujours en disant... mais on ne peut rien faire, ils sont découragés avant d'avoir passé à l'action. Eh bien, le pape disait, l'heure présente, le devoir de l'heure présente, n'est pas de gémir, mais d'agir. Ça pourrait être votre devise. On n'est pas là pour geindre, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour agir, réagir déjà. Pas de gémissement sur ce qui est ou ce qui fut, mais reconstruction de ce qui se dressera et doit se dresser pour le bien de la société. Au meilleur, à l'élite de la chrétienté, vibrant d'un enthousiasme de croisée, on retrouve cette idée, la croisade, il appartient de se grouper dans l'esprit de vérité, de justice et d'amour au cri de Dieu le veut, prêt à servir, à se dévouer comme les anciens croisés. Et là, le pape va faire cette comparaison. Bien sûr, autrefois, il s'agissait d'une croisade pour délivrer les lieux saints. Mais où sont les lieux occupés maintenant? Est-ce qu'il y a besoin d'aller en Terre Sainte pour voir les lieux occupés par l'ennemi? Mais les lieux sont occupés tout près de nous. Il s'agissait alors de délivrer la terre sanctifiée par la vie du Verbe de Dieu incarné. Il s'agit aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer ainsi, d'une nouvelle croisade, bravant la mer des erreurs du jour et du temps, pour délivrer la terre sainte spirituelle, l'âme de nos enfants, destinée à être le soutien et le fondement de normes et de lois immuables pour des constructions sociales d'une intérieure et solide stabilité. Vous voyez, tout est dans ce texte. Cessez de vous plaindre, cessez de geindre. C'est une croisade, vous êtes mobilisés, ne désertez pas, vous êtes mobilisés. C'est ici, maintenant, qu'il faut envisager cette croisade. Comme disait Mgr Lefebvre, ce que je veux vous montrer encore une fois, c'est cette continuité, cette constance dans l'enseignement. Là, nous voyons bien, cardinal Pie, saint Pie X, Pie XII, le père Calmel, Mgr Lefebvre, c'est avec ces gens-là que nous sommes, c'est avec ces hommes d'élite que nous nous sentons en famille. Bravons la mer des erreurs du jour. Mais il dit bien, attention, pas simplement pour notre salut personnel, mais aussi pour que les institutions soient réformées. Il le dit, le fondement de normes et de lois immuables pour des constructions sociales d'une intérieure et solide stabilité. C'était très net dans son esprit. Ça devrait l'être pour nous. Prendre des résolutions plus nettes, plus vigoureuses, parce que nous aurons des connaissances plus strictes, plus rigoureuses. Très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas nous qui changeons, qui décidons, qui décrétons, qui légiférons. Et c'est là que j'aimerais vous toucher un mot du pèlerinage de Chartres à Montmartre. Pourquoi? Parce que nous avons pris comme thème les vertus théologales, foi, espérance et charité. Et nous avons mis comme sous-titre « Foi, espérance, charité pour tout restaurer dans le Christ ». Nous avons mis les vertus théologales et tout de suite après la devise de Saint Pie X. Pourquoi? Parce que c'est évident que nous ne ferons rien sans la grâce. Nous ne ferons rien sans l'aide de Dieu. Mais il importe grandement que nous comprenions bien que ces vertus théologales doivent s'incarner, s'enraciner. La foi, eh bien, elle doit s'enraciner dans le désir que nous avons de la garder et de la transmettre. Et ça, concrètement, qu'est-ce que c'est sinon justement l'enseignement chrétien, les écoles? La foi n'est pas une abstraction. La foi, ce n'est pas quelque chose qui serait simplement de l'ordre des idées. C'est une réalité. Et elle s'incarne au quotidien, dans ce désir, cette volonté nette, ferme, de garder et de transmettre. Et bien ça, c'est le combat pour l'enseignement libre, c'est le combat pour l'enseignement chrétien, c'est le combat pour l'école catholique. Sinon, ça reste une foi complètement désincarnée. L'espérance. L'espérance, c'est une vertu théologale, mais ça s'incarne, bien évidemment. La foi, nous le savons, c'est on croit ce que Dieu nous a révélé et transmis par son Église, parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Mais, encore une fois, dès que nous avons manifesté cet acte de foi, il faut que ça se traduise dans des actes concrets institutionnels, sociaux, et rien de tel qu'une école. Vous avez ici une école, il est évident qu'on la soutient, qu'on la défend. Sinon, encore une fois, on se paie de mots, on vit dans l'illusion. Ça, c'est plus utopique du tout. Là, c'est la cité catholique qui marche, qui avance, qui progresse au quotidien. L'espérance. L'espérance, bien sûr, c'est... Nous avons cette confiance en Dieu, nous savons, n'est-ce pas, qu'il nous a promis sa grâce et que nous obtiendrons le ciel par les mérites que notre Seigneur nous a gagnés. Nous avons cette confiance, c'est bien, mais ça s'incarne, ça aussi. Et ça s'incarne pas simplement sur le plan individuel, personnel, ça s'incarne sur le plan institutionnel, en l'occurrence, la famille. Si la famille n'est pas mue, animée, habitée par cette espérance, c'est plus une famille chrétienne, parce qu'il faut l'espérance. Il faut l'espérance pour avoir une famille solide, nombreuse. Et c'est pourquoi nous avons dit, effectivement, que la famille, c'est l'espérance. C'est d'ailleurs l'espérance en acte, c'est l'espérance vivante, vibrante. Mais c'est aussi, pour l'Église et pour la société, c'est l'espérance. Vous savez, il y a eu une enquête démographique en France, il y a quelques semaines. Eh bien, on le sait, le nombre de berceaux ne dépasse plus le nombre de tombeaux. Plus de morts que de bébés en France. C'est un pays qui est en train de mourir. Il vieillit et il mourra si ça continue. Ah, il y aura peut-être d'autres naissances. Mais ça ne sera peut-être plus des naissances de France. En France. En France, mais peut-être pas de gens qui ont les valeurs chrétiennes, qui ont vraiment le souci de recevoir le patrimoine de la France chrétienne. On verra, effectivement, peut-être, parce que justement, cette société de consommation, cette civilisation dite de loisirs, est marquée d'un signe de mort, l'égoïsme, l'égocentrisme. Alors, c'est net, c'est clair. Moins de berceaux, plus de tombeaux, de plus en plus de tombeaux, de moins en moins de berceaux. C'est plus l'espérance, c'est le désespoir, ça. C'est la désespérance. Mais la charité, alors, nous aimons le bon Dieu par-dessus tout. Et nous aimons le prochain pour l'amour de Dieu. Ça s'incarne, ça. Ça s'incarne justement dans nos métiers, dans le devoir d'État. Notre plus grande charité ne consiste pas à faire des sourires, ce n'est pas de la philanthropie. Non, notre charité, c'est de bien faire ce qu'on doit faire. Être à son créneau, faire son devoir, le sens chrétien du travail, les associations professionnelles où on essaye de cultiver cet amour du travail bien fait. Je voudrais vous lire un petit texte de Peggy qui vous montrera justement ce que c'était pour Peggy au début de ce siècle, le beau, le bel ouvrage, comme on disait autrefois. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on considère que le travail, c'est vraiment la pire chose qui soit. Les jeunes, dès leur plus tendre enfance, considèrent que le travail, c'est ce laps de temps le plus court possible qui doit séparer deux grandes périodes d'immenses vacances. On vit pour les vacances. Vous voyez des gens, ils arrivent le matin au travail, on leur dit « comment ça va ?» Ils disent « comme un lundi ». Ah ben je vois que ça se dit aussi en Suisse. Tiens. Et puis ben alors, quand on est en fin de semaine, comment ça va? Comme un vendredi, ils sont là, hilars. C'est quand même inquiétant. Nous-mêmes, on s'en rend compte, parce que le travail qu'on demande, justement, à des artisans, tout le monde s'aperçoit que c'est plus que c'était. Ça a été saboté, c'est pas fait comme ça devrait. Je vais vous lire ce que disait Peggy. Nous avons connu, nous avons touché l'ancienne France, nous l'avons connue intacte. Nous en avons été enfants. Voilà quelqu'un qui a vraiment cette piété filiale. Voilà quelqu'un qui a vraiment la mémoire des devoirs transmis par les parents aux enfants. Nous avons connu un peuple, nous l'avons touché. Nous avons été du peuple quand il y en avait un. Nous croira-t-on, et ceci revient encore au même, nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler. Nous avons connu des ouvriers qui, le matin, ne pensaient qu'à travailler. Ils se levaient le matin, et à quelle heure? Et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler. À 11 heures, ils chantaient en allant à la soupe. Travailler était leur joie même, et la racine profonde de leur être, et la raison de leur être. Il y avait un honneur incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs, le plus chrétien, le seul peut-être qui se tienne debout. Relisez la messe, n'est-ce pas, de Saint-Joseph, l'artisan. Nous avons connu un honneur du travail, exactement le même que celui qui, au Moyen-Âge, régissait la main et le cœur. Effectivement, âge de foi, le Moyen-Âge, c'est avec cela qu'on pouvait élever des cathédrales. Maintenant, on n'élève plus des cathédrales. On élève des trucs comme Évry. Vous avez vu ça en région parisienne. Ce n'est pas une cathédrale. Ça n'a pas été fait par des compagnons du devoir, ça. C'était le même conservé intact en dessous, l'honneur du travail. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien fait, poussé, maintenu jusqu'à ses plus extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait travaillé, taillé ces cathédrales. La mère de Peggy était rempailleuse de chaises. Dans ce bel honneur de métier convergeaient tous les plus beaux, tous les plus nobles sentiments, une dignité, une fierté. Ces ouvriers ne servaient pas, ils travaillaient. Ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. C'était entendu, c'était un primat. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire, ou moyennant le salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venu, monté du plus profond de la race, une histoire, un absolu, un honneur, voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Même ce qui ne se voit pas doit être parfait. Eh bien, cela, ça c'est la charité incarnée, enracinée au quotidien. Le pèlerinage donc de cette année, je sais qu'un bon nombre d'entre vous le font, ce pèlerinage, et ceux qui ne peuvent pas le faire accompagnent les pèlerins valaisans de leurs prières. Il faut prier pour ceux qui marchent, de Notre-Dame de Chartres au Sacré-Cœur de Montmartre. Nous allons proposer donc cette année cette méditation-là. Il faut effectivement que la chrétienté continue, il faut que cette chrétienté renaisse. Mais nous ne nous berçons pas d'illusions, là, aucune utopie. Tout ce qui est au contraire extrêmement concret, tout à fait réaliste, réalisable. C'est réalisable, un effort sur l'école. C'est réalisable, un effort dans la famille. C'est réalisable, un effort dans le devoir d'État, dans le métier. Et c'est comme ça que la cité catholique est à notre portée de main. C'est entendu, nous ne faisons pas les lois, c'est vrai. Mais nous pouvons commencer dans ces institutions sur lesquelles nous avons un petit pouvoir. Ne me dites pas que vous n'avez aucun pouvoir, aucune responsabilité, ne nous défaussons pas, ne nous dégageons pas. Nous avons tous une responsabilité pour l'école, pour la famille, pour le métier. Et ça, c'est institutionnel, ça, c'est social, ça, c'est politique. Ah, ce n'est pas la politique politicienne, ce n'est pas la politique des politicards, c'est la politique chrétienne, c'est la cité catholique. C'est ce que disait d'ailleurs Pie XII, et ce sera ma conclusion. Je tire d'ailleurs tous ces textes justement du dossier spirituel et doctrinal que font les religieuses de Saint-Pré à Brignoles pour les pèlerins, justement, pour nourrir leur méditation. Vous voyez, tout a été tiré de ce texte-là, ce dossier. Vous pourrez certainement, je pense, vous le procurer si vous le demandez au secrétariat du pèlerinage à Paris. Voici ce que disait le pape Pie XII, cette fois-ci le 14 octobre 1951. Nécessairement et continuellement, la vie humaine, privée et sociale, se trouve en contact avec la loi et l'esprit du Christ. Donc, la loi et l'esprit du Christ, ça n'est pas que privé, c'est aussi social. Il en résulte, par la force des choses, une compénétration réciproque de l'apostolat religieux et de l'action politique. Compénétration réciproque. Politique, au sens relevé du mot, ne veut pas dire autre chose que collaboration au bien de la cité. C'est-à-dire justement sortir des intérêts personnel, individuel, particulier, singulier, égoïste, égocentrique, et s'élever au niveau du bien commun, le bien de la famille, le bien de la génération qui nous suit pour l'école, le bien de la profession. C'est ça la cité catholique. Mais ce bien de la cité s'étend fort au large. Et par suite, c'est sur le terrain politique que se débattent et se dictent aussi les lois de la plus haute portée, comme celles qui concernent le mariage, la famille, l'enfant, l'école, pour nous borner à ces exemples. Ne sont-ce pas là des questions qui intéressent au premier chef la religion? Bien sûr que oui. Peuvent-elles laisser indifférent, apathique, un apôtre? C'est un non-sens. Ça, c'est un adjectif qui ne devrait pas pouvoir être accolé au mot d'apôtre. Apôtre, apathique. C'est comme saint flegmatique. C'est un adjectif inqualifiable, si je veux dire. Ça ne convient pas. Vous voyez, on faisait un petit peu de grammaire ensemble hier, en faisant un petit peu d'analyse logique, un petit peu d'analyse grammaticale. C'est pas possible. Un apôtre apathique, un saint flegmatique, ça n'existe pas. Nous en avons tracé la limite. Donc, il faut, le pape donc poursuit, n'est-ce pas, son raisonnement, il faut, bien sûr, que, au-dessus des querelles contingentes qui enveniment les luttes des partis, il faut arriver à bien manifester, soutenir, défendre la conception chrétienne. Autant il serait blâmable de laisser le champ libre pour diriger les affaires de l'État aux indignes, aux incapables. Je veux dire, ben nous, on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas pour nous, on n'est pas concernés. Mais si, on est tout de suite concernés. Vous allez me dire, on ne fait pas les lois, mais ça on l'a bien compris. Mais est-ce que je fais en sorte que la loi qui régit ma famille est bien inspirée de la loi du bon Dieu? Que la loi qui régit l'école où j'ai mis mes enfants est bien la loi du bon Dieu? Que la loi qui régit l'exercice de mon métier est bien la loi que le bon Dieu veut? Ça, c'est incontournable. Là-dessus, on ne peut pas se dire « je n'ai pas de pouvoir ». Ou alors, c'est que vous êtes des extraterrestres, c'est que vous ne vivez pas sur cette terre, c'est que vous êtes dans une forme, sur une autre planète, je ne sais pas. Alors là, vous n'êtes pas à Sion, vous n'êtes pas en Valais, vous n'êtes plus sur cette terre, des martiens, iti, extraterrestres. Non, nous sommes bien de cette terre. Nous sommes bien dans un pays où il y a des écoles, des familles, des métiers. Et c'est là que le bon Dieu nous attend. Alors, si vous avez envie, vous pourrez vous reporter à ce dossier. Et vous verrez, je voulais simplement justifier le thème « Foi, espérance, charité pour tout restaurer dans le Christ ». Comment, encore une fois, ces vertus théologales se manifestent, rayonnent dans des devoirs auxquels nous ne pouvons pas nous soustraire, dans des devoirs sur lesquels nous aurons des comptes à rendre, des devoirs que le bon Dieu nous demandera de bien remplir, pour que notre vie elle-même soit bien remplie. Encore une fois, je le dis, n'est-ce pas, la foi, l'espérance, la charité sont des vertus théologales qui ont pour objet le bon Dieu lui-même, mais ça a une dimension. Ça a une dimension sociale, familiale. Ce n'est pas la foi individuelle, l'espérance égoïste et la charité égocentrique. Ça aussi, c'est des adjectifs qui ne vont pas. Ce n'est pas possible. Demandons donc, au cours de ce dimanche, alors que nous sommes en train de préparer un petit peu nos résolutions pour ce carême, on sait bien que... Donc, mercredi, nous recevrons les cendres et que nous allons essayer de nous armer de courage pour faire un bon, un saint carême. Pourquoi pas demander au bon Dieu, justement, de raviver, réactiver les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et faire en sorte, justement, que ça soit bien réactivé dans cette dimension qui font de ces vertus théologales des vertus de chrétienté, c'est-à-dire que ce sont ces vertus-là qui permettent à une chrétienté de revivre, de refleurir. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que Saint Pie X disait « La cité catholique n'est plus à inventer, elle a existé, il faut la faire revivre. » On la fera revivre quand on fera revivre les vertus qui l'ont fait naître, mais des vertus qui ont, encore une fois, inspiré, irrigué la vie des familles, des métiers, des écoles, de toute une société. Demandons vraiment, c'est une grâce, c'est une lumière qu'il faut demander et ensuite un courage qu'il faut garder tout au long de ces 40 jours, arriver à bien comprendre. Ce n'est pas la foi pour moi tout seul, parce que ça me fait du bien, ça me réchauffe le cœur. Non, c'est la foi contemplée, transmise. Ce n'est pas l'espérance parce que ça m'aide à vivre, moi, égoïstement. C'est l'espérance transmise. Et la charité qui ne rayonne pas, c'est une charité morte. Alors, on n'en parle même pas. Donc, demandons cette grâce. Les sœurs qui m'ont aidé à faire le dossier ont essayé d'attribuer, je crois qu'elles ont bien fait, d'attribuer à des domaines très précis ces champs d'application, si vous voulez, des trois vertus théologales. Alors je lui donne une dernière fois. Première vertu théologale, la foi, l'école. Qu'est-ce que je ferai pour l'école pendant ces 40 jours? L'espérance, la famille, qu'est-ce que je fais pour la famille? Et la charité, qu'est-ce que je fais pour les métiers? Voilà, maintenant c'est entre vos mains. Maintenant c'est à vous de bien saisir. Vous avez compris. Ça ne sert à rien, comme disait le pape Pie X, de garder ça en tête. Il faut traduire en acte. Ainsi soit-il. Alors je crois que très aimablement, on nous invite à nous retrouver pour un petit verre derrière.